13h.
Il est 13h.
Midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydraki.
Bonjour Anne Cantner. Bonjour à toutes et à tous. L'exaspération à Minneapolis après la mort d'Alex Pretty, infirmier américain de 37 ans, tué par la police aux frontières. Les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton appellent à un sursaut, je cite, pour défendre les valeurs de l'Amérique. Donald Trump lui accuse les démocrates d'être responsables du chaos. Les appels se multiplient pour une enquête indépendante. Vers une réouverture mais limitée du passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Décision du cabinet de sécurité israélien sous pression. Réouverture réservée aux piétons et sous très stricte surveillance.
RFI.
À suivre aussi une purge de l'armée en Chine. De très hauts responsables écartés, accusés de corruption. Ils étaient pourtant réputés proches du pouvoir. Et puis ça monte. Nouveau record pour l'or. L'once de métal jaune a dépassé la barre des 5 000 dollars sur les marchés.
Des bougies, des fleurs, des photos en hommage à Alex Pretty, tué par la police samedi à Minneapolis.
Dans cette ville du nord du pays des États-Unis, déjà traumatisée par la mort de Renee Good, autre citoyenne américaine abattue par la police anti-immigration. Selon plusieurs vidéos des événements, Alex Pretty était désarmé au moment des tirs et il ne présentait pas de danger. Des habitants de Minneapolis ont encore manifesté leur colère hier.
C'était affreux, c'était dévastateur. En particulier quand vous avez des membres du gouvernement qui vous disent de ne pas croire ce que vous avez pourtant vu de vos propres yeux. Quand vous avez tant d'images avec différents points de vue et de témoins.
C'est horrible, c'est un meurtre. Ce n'est pas l'Amérique dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans un pays où chacun pouvait avoir sa chance. J'ai grandi sur une terre d'immigrés. On s'est construit grâce à l'immigration.
Beaucoup de gens avec qui je travaille ont peur. Ils vivent ici légalement, mais n'ont pas la nationalité. Quand je termine ma journée de travail, je ne sais pas si je vais les revoir.
Voilà des citoyens de Minneapolis mobilisés hier et la justice américaine est appelée à se prononcer sur ce qui se passe dans cette ville. Une audience est prévue ce lundi à la demande de l'État du Minnesota qui réclame, Marine de la Moissonnière, une suspension temporaire de l'opération de la police anti-immigration ICE.
Oui, le Minnesota mais aussi les villes de Minneapolis et de Saint-Paul ont saisi la justice quelques jours après la mort de Renee Good. La police de l'immigration bafoue la loi et la constitution, estime le procureur général de l'État. La présence de 3000 agents d'ICE dans le Minnesota constitue une occupation illégale et dangereuse qui a pour seul but de punir des opposants politiques et de marquer des points auprès des partisans de Trump. Voilà ce que soutiennent les avocats de l'État et des deux villes. La mort d'Alex Pretty leur a donné un argument supplémentaire. D'après le New York Times, ils ont écrit au juge samedi soir afin de réitérer leur demande. Cette opération doit cesser au plus vite avant qu'une autre personne ne meure, ont-ils expliqué. En face, le président américain ne cesse de défendre les agents d'ICE qui ne font que leur boulot, un boulot nécessaire pour réduire la criminalité et faire respecter les lois sur l'immigration. Deux promesses électorales du président américain. C'est la ligne de défense de l'administration Trump. Un autre État démocrate, l'Illinois, a lancé une procédure juridique semblable. L'affaire n'a pas encore été tranchée.
Marine de la Moissonnière, les États-Unis qui grelottent face à une tempête hivernale exceptionnelle qui a fait au moins 10 morts, des températures polaires, de la neige, du verglas qui s'accumule, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité et des milliers d'avions sont cloués au sol.
Un hiver très difficile aussi en Ukraine à cause des bombardements russes sur les infrastructures énergétiques.
Et après des pourparlers la semaine dernière à Abu Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains sur une éventuelle sortie de conflit, le Kremlin fait état aujourd'hui de discussions dans un esprit esprit constructif, je cite, mais rappelle aussi son exigence. Autrement dit, une cession totale de la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Berlin vient à l'instant de dénoncer l'obstination de Moscou. Selon un responsable américain, les pourparlers devraient reprendre le 1er février, dimanche prochain.
Vers une réouverture du passage de Rafah, poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza.
Décision du cabinet de sécurité israélien sous pression américaine. Cette réouverture, elle est prévue par l'accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien dévasté par les bombardements israéliens. Réouverture qui devrait être effective dans les prochains jours. Bonjour Abla Jounaïdi.
Bonjour.
Elle sera limitée. Israël souhaite garder le maximum de contrôle sur les entrées et les sorties.
Oui, après des mois à refuser la réouverture du point de passage, le gouvernement israélien cède donc. La pression de l'administration américaine aidant, vous l'avez dit, cette réouverture doit permettre à une date non encore précisée le passage des personnes dans les deux sens. On ne parle pas encore des marchandises en dépit de la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Cette réouverture annoncée marque le retour en scène de la mission d'assistance de l'Union européenne aux frontières. Le BAM gérera les sorties des personnes en tant que partie neutre aux côtés de fonctionnaires palestiniens. Sont autorisés à sortir moyennant des contrôles de sécurité complets des malades et leurs accompagnants exclusivement. Israël gardera un œil sur les contrôles. L'Égypte devra lui transmettre quotidiennement les listes des personnes entrant et sortant du territoire et ces listes devront être validées le jour même par les services de renseignement israéliens. Et à l'aide de caméras de surveillance, l'armée israélienne contrôlera les allées et venues également. La presse israélienne croit savoir que l'armée devrait aussi construire un couloir pour contrôler les entrées et sorties de personnes. Objectif invoqué, empêcher la contrebande d'armes dans Gaza.
Abla Jounaïdi, Israël, où l'on attend par ailleurs une décision après une nouvelle audience à la Cour suprême sur un accès indépendant des journalistes étrangers dans la bande de Gaza. C'est ce que réclament plus de 130 médias internationaux au nom de la liberté d'informer.
Un corridor humanitaire ouvert à Kobané, ville à majorité kurde au nord de la Syrie et cernée par l'armée.
Un convoi d'aide de l'ONU est arrivé hier avec des denrées essentielles, des articles de secours, du diesel aussi. Le cessez-le-feu entre l'armée syrienne et les forces kurdes a aussi été prolongé après deux semaines d'offensives qui ont permis aux autorités de Damas de reprendre le contrôle d'une grande partie des zones contrôlées par les forces kurdes. Damas récupère notamment la gestion d'une partie des camps et des prisons où sont retenues des milliers de personnes accusées d'être liées à l'organisation État islamique. Et dans le chaos, l'Union européenne s'inquiète de possibles évasions de djihadistes. Notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin, s'est rendue dans le camp de Al-Hol où sont retenues près de 24 000 personnes. Reportage.
Les allées boueuses du camp d'Al-Hol sont remplies de familles au monde défaites. Dans le chaos, la plupart ont cru un instant qu'elles allaient être libérées, armades et désœuvrées.
Nous étions très optimistes à l'arrivée de l'armée et nous pensions qu'ils allaient arriver d'un côté et que nous allions sortir de l'autre. On ne pensait pas qu'au contraire, ils allaient renforcer la sécurité.
De l'autre côté des barbelés, des dizaines de pick-up ont été positionnés devant une rangée de soldats surarmés. Les autorités ont fait de la sécurisation de ce camp une priorité. Ce soldat craint que des familles se soient échappées.
Il y a beaucoup de gens qui sont sortis après le départ des FDS. Ils ont jeté leurs armes aux mains des familles et sont partis.
Des familles se bousculent devant un dispensaire. Ces derniers jours ont été synonymes d'une dégradation de la situation humanitaire.
On n'a pas de pain depuis deux jours, pas d'eau. Nous n'avons plus d'aide alimentaire, plus de gaz. Les enfants meurent de froid.
L'annexe qui renferme les familles de djihadistes étrangers a été sécurisée. Impossible de rentrer. Des dizaines de familles s'agglutinent à la grille.
On souhaite deux choses, la liberté et que vous nous ouvriez ces portes.
Selon une source au sein de la coalition internationale, les évacuations qui devaient se poursuivre au mois de janvier vers l'Irak ont été suspendues pour raisons de sécurité. Manon Chaplin, à Al-Hol, RFI.
Le Premier ministre sénégalais en visite officielle au Maroc à partir d'aujourd'hui. Ce déplacement d'Ousmane Sonko était prévu de longue date, mais il intervient après la fameuse finale mouvementée de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par l'équipe du Sénégal face au Maroc, sujet de tension entre supporters. On y revient dans Afrique Midi, midi et demi temps universel.
En Chine, deux des plus hauts responsables de l'armée sous le coup d'une enquête pour corruption.
Et le journal officiel de l'Armée populaire de libération a justifié publiquement cette purge. Cléa Broderst, on vous retrouve en direct de Pékin. Bonjour.
Bonjour.
Et ces deux hauts responsables sont donc accusés de corruption, mais aussi de porter atteinte directe au chef de l'État, c'est ça ?
Voilà, et avec un éditorial d'une rare violence, le PLA Daily, le quotidien officiel de l'Armée populaire de libération, va bien au-delà de l'annonce des enquêtes. Il impose une lecture politique de l'affaire et transforme une procédure disciplinaire en démonstration idéologique. Le journal accuse Zhang Yuxia et Liu Zhenli non seulement de corruption, vous le disiez, hein, mais surtout d'avoir porté atteinte au système de commandement de la commission militaire centrale, c'est-à-dire à l'autorité directe de Xi Jinping sur l'armée. Et en Chine, c'est l'un des reproches les plus graves. Il touche au principe fondamental selon lequel le parti commande aux armes et jamais l'inverse. Et cette prise de parole est en soi un signal. Le PLA Daily dépend directement de la commission militaire centrale. Et avec un tel éditorial, l'institution militaire entérine publiquement la chute de ses dirigeants et encadre le récit politique. Et c'est vrai que le message adressé aux officiers, il est très clair. À l'approche du congrès du parti et à l'horizon du centenaire de l'armée, l'enjeu n'est pas seulement d'éradiquer la corruption, mais bien de verrouiller la loyauté politique, quitte à accepter un choc au sommet de l'armée pour réaffirmer la mainmise du pouvoir sur l'institution.
Cléa Broadhurst en direct de Pékin et vous y reviendrez, Anne Cantner, dans quelques minutes avec votre invité.
Ah oui, le géographe Emmanuel Véron, spécialiste justement de l'armée chinoise.
Jour de République, de la République en Inde qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Constitution. Cela va de pair avec un grand défilé militaire, c'est la tradition. Et cette année, on invite d'honneur les dirigeants de l'Union européenne, le président du Conseil Antonio Costa et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen qui espère sceller un traité de libre-échange commercial entre l'UE et New Delhi.
C'est un nouveau cap symbolique. Pour la première fois, l'once d'or a dépassé sur les marchés la barre des 5 000 $.
Le métal jaune n'en finit plus de grimper. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour.
L'or qui joue à plein son rôle de valeur refuge dans cette période d'incertitude.
Oui, et ce n'est pas nouveau. Hein. L'or dépasse les 4 000 $. Pourquoi une telle flambée, nous demandions-nous, début octobre. L'or dépasse pour la première fois les 3 000 $. C'est un nouveau record, s'il y en a nous, le 14 mars 2025. Les raisons sont toujours les mêmes. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les guerres commerciales déclenchées par le président américain, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, en mer de Chine méridionale, au Groenland, la faiblesse du dollar. Tout cela crée un climat d'incertitude. On peut même parler d'angoisse économique. Et quand tout menace de basculer, eh bien, les investisseurs se tournent vers l'or. On sait que, quoi qu'il arrive, on pourra revendre le métal jaune et par par les turbulences du monde, l'or rassure. Et puis il y a les golden boys, spéculateurs qui anticipent l'angoisse des investisseurs et qui eux aussi achètent, font monter les prix pour mieux revendre à la première éclaircie. En attendant, eh bien, le climat favorise les investissements dans l'extraction aurifère, comme nous le signalait Cléa Broadhurst à Pékin qu'on vient d'entendre. Le groupe chinois Luoyang Molybdenum vient d'acquérir plusieurs mines d'or au Brésil pour plus $1 milliard. Rendez-vous dans 3, 4 ou 6 mois pour parler de l'or qui aura peut-être alors dépassé 6 000 $.
Et vous reviendrez, Nathanaël Vitran, nous parler donc d'un nouveau record. En France, le procès en appel de l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty, décapité en octobre 2020 après une campagne de haine et d'intimidation. Le procès donc en appel s'est ouvert à Paris tout à l'heure avec sur le banc des prévenus 4 hommes condamnés en première instance à des peines de 13 à 16 ans de prison.
En France encore, les élections municipales approchent. Premier tour dans moins de 2 mois et les partis affinent leur stratégie.
À gauche, le Parti socialiste vient de présenter en conférence de presse sa stratégie au siège du parti à Paris, où l'on vous retrouve, Victorien Villaume, le PS qui annonce 2000 candidats investis tête de liste partout dans le pays.
Oui, notre objectif, c'est qu'au lendemain des élections, la presse puisse titrer « Le PS a gagné ». Voilà ce qu'avance le secrétaire général du parti, Pierre Jouvet, qui s'est donc exprimé pendant une heure devant la presse ce matin. Alors pour ça, 2000 candidats investis, vous l'avez dit, et des accords de rassemblement avec d'autres forces de gauche présentés comme historiques. Pierre Jouvet avance ce chiffre. Dans 90% des villes de plus de 20 000 habitants, il y aura un rassemblement dès le premier tour entre le PS, donc les écologistes, le Parti communiste français ou encore Place publique et Debout de François Ruffin. Un périmètre de rassemblement qui permettront de gagner ces élections, espère Pierre Jouvet, qui veut voir là le signe d'une dynamique politique en faveur de la gauche. Alors en plus de sécuriser les villes déjà socialistes, le PS avance également des objectifs concrets de conquête. Le parti de la Rose aimerait s'emparer notamment de Saint-Étienne, Limoges, Amiens, mais aussi Toulouse.
Et si la France insoumise, de son côté, fait bande à part, vous le savez, dans de nombreuses villes comme Toulouse, justement, mais aussi Paris et Lyon, Pierre Jouvet balaye d'un revers de main le danger. « Je fais confiance aux électeurs de gauche », affirme-t-il. Au premier tour, on choisit la personnalité qui fait le plus plaisir. Au deuxième tour, on vote en responsabilité.
Victorien Guillaume au siège du Parti Socialiste à Paris. Et puis TikTok, Snapchat ou encore Instagram. Faut-il interdire ces réseaux sociaux aux moins de 15 ans? En France, faut-il interdire les portables dans les lycées? C'est une proposition de loi soutenue par le gouvernement et par le président Emmanuel Macron. Elle sera débattue cet après-midi par les députés.
Charlotte Hydrac, il est midi et quart en temps universel.
Bonjour à tous, encore une merveilleuse journée. Attention, je vous prie.
HTPR, c'est sur le 99.
Radio HDR,
le mix
des cultures,
de toutes les cultures,
sur le 99.1 FM.
99.1 FM.
J'imagine que t'es prêt pour l'expérience.
Just in case you stop to wonder what happened after the party. One little girl sitting all alone, jaded and broken hearted. My affliction,
you're my sickness.
Is a heart and brain contradiction.
I know,
in any direction.
No matter where I run, I end up back in your affection.
Better know,
yeah, baby. My brain says back up everything right now. Run away, child. Run away. But my heart says, oh, we're gonna miss him so. We'll be back in the day, child. And with all the moves in modern medicine, you'll agree, I'm sure, that if they tried, if they really tried, by now they would have found a cure. And if you've ever had this,
if you ever had this,
then you know love is some kind of madness.
Yes, it is.
Make you the star of the poppy show. And if you've ever had this,
sitting here, staring into space, I'm wondering what I can do to bring a smile back to your face.
Oh,
you must know that you're my favorite person in the whole wide world, because you used to be my charge, my little party, everything wrapped up in one word. Together we were magic. I turned into a one in your head. Sad. Oh, this poo-poo must be big. Yet I'm ready to fix it. I've got to fix it. If I only knew what I did, if you ever had this, then you know love is some kind of madness.
It's nothing but madness.
Make you the star of the poppy show. If you ever had this, then you know.
You started wondering what happened after we parted. Who's some rainy weather and some makeup sex, and we're right back where we started. My affliction is your, my addiction. Yeah, and I just can't get clean. You're in every fiber of my being.
I know that.
L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, je vous emmène encore au Salon des maires, où je voulais absolument rencontrer une association et les gens qui la représentaient. Il s'agit des éco-maires. Alors si je vous dis éco-maires, vous allez me dire peut-être maire vert. Non, ça n'est pas un parti politique. C'est une association de maires qui veulent agir pour l'environnement, pour l'écologie. Et pour en parler, je suis avec Jean-Luc Aigouin, qui est vice-président des éco-maires. Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis vice-président des Écomaires, une association nationale à laquelle j'appartiens depuis 2008, donc, puisque j'étais maire d'une petite commune rurale dans le Gard. Et donc, c'est une association qui a 35 ans d'âge. Et c'est Laurent Fabius, à l'époque, avec Yves Petrasanta, qui ont porté cette association au départ, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait, on partait sur des problématiques environnementales, notamment, qui allaient modifier le cours des choses. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré il y a 35 ans.
Vous êtes combien de maires en France ?
à peu près 2000 collectivités qui sont adhérentes aux écomères. Alors c'est une adhésion qui ne coûte pas cher puisqu'elle coûte quelques centimes par habitant, donc on peut très bien adhérer si on a des convictions effectivement pour cette amélioration de la vie sur notre planète, que ce soit la vie, on parle de biodiversité, mais on parle aussi de la vie économique et sociale. Tout ça, ce sont les trois piliers du développement durable dont on parlera peut-être tout à l'heure, et les écomères sont porteurs de ça. Comment font-ils? Quel est leur rôle de cette association? Mais c'est d'accompagner les collectivités dans leurs projets de ces domaines-là, de leur faciliter les possibilités qu'ils ont pour les mener à bien. C'est aussi une vitrine à travers, par exemple, les trophées Écoaction qui, tous les ans, mettent en valeur des réalisations remarquables des collectivités. Et ils ont également des manifestations importantes auxquelles beaucoup de collectivités participent. On a notamment les Assises nationales de la biodiversité. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et ici, au niveau du Salon des maires, on a un stand où on rencontre beaucoup de gens, on fait connaître ce qu'on fait, on a beaucoup de partenariats avec des entités économiques, etc., qui nous permettent aussi de créer des documents, de la documentation qui est de la documentation authentique, je veux dire, puisque dedans il y a chaque fois des exemples de réalisation dans des communes avec les contacts, savoir ce qu'ils ont fait, qui on peut contacter si on est intéressé. Alors je pense par exemple à une commune qui va avoir qui est très importante chez nous, c'est Moinsartou, que vous connaissez peut-être, qui au niveau des cantines il y a très longtemps a compris que la nourriture dans les cantines, il fallait aller vers autre chose, qu'il fallait être autonome, donc ils ont créé leur propre jardin. Ils ont des employés communaux qui sont des agriculteurs. Donc voilà, ils ont beaucoup et ils continuent à avancer, à fédérer autour d'eux cette idée qu'on peut, dans sa commune, produire de la qualité et que cette production elle atterrit dans les cantines des écoles.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple d'action menée par les écomères et que vous, en tout cas, voudriez voir se développer un peu partout sur le territoire?
Alors, je vais vous parler de la mienne, puisque j'ai eu le trophée Écoaction il y a quelques années. Et on est sur la problématique de l'eau. Donc moi, j'étais dans un village, maire d'un village de 500 habitants, avec à peu près 250 compteurs d'eau, on va dire. Voilà. Et donc, quand on faisait le relevé des compteurs, je me suis dit, l'année d'après, je vais voir un petit peu comment ça évolue. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des compteurs qui baissaient leur volume d'eau. On a dit, avec la facture d'eau, on va leur mettre un petit carton pour dire, vous avez baissé votre consommation de X mètres cubes ou de tant de pourcentage. On vous remercie, on vous félicite parce que vous préservez, etc. Avec un petit livret d'accompagnement et on mettait ça avec la facture. Si par hasard, on oubliait ce petit carton, les gens venaient à mairie en montrant la facture en disant, mais moi, j'ai baissé ma conso, j'ai pas eu le petit carton. Au bout de 3 ans, 60% des compteurs avaient baissé leur consommation. Donc ça veut dire qu'avec 20 euros de papier par an, même pas, et d'encre, on pouvait faire baisser 60% des compteurs. Voilà ce que c'est déjà une action qui ne coûte pas cher et qui est très importante sur la préservation de l'eau. Après, il y a des projets sur le traitement des déchets aussi qui se fait de plus en plus. Il y a des projets sur l'éclairage public. Il y a toutes sortes.
Alors, l'éclairage public, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est toutes les communes qui ont un petit peu réduit quand même leur éclairage public.
Est-ce qu'on réduit totalement ou est-ce que c'est des quartiers? Pourquoi? Parce que c'est ça qui est important, c'est de quel est le pourquoi de ce qu'on fait. Et puisqu'on parle d'éclairage public et de Mayotte, qu'est-ce qu'on fait nous en France actuellement? On met des LED pour remplacer les... Qu'est-ce qu'ils font à Mayotte? Ils mettent des photovoltaïques indépendants. Donc c'est une étape supérieure, donc ils sont en avance sur nous, parce que nous, dans quelques années, quand on aura épuisé le stock de LED, on passera au photovoltaïque.
Autre exemple?
Comment dirais-je, l'économie circulaire aussi qui est importante et qui se développe de plus en plus. L'été notamment, il y a beaucoup de spectacles qui se passent. Donc les gens vont au spectacle. Mais l'idée, c'était de se dire, vous allez au spectacle, si vous avez un objet culturel dont vous voulez vous séparer, vous l'amenez. On a des organismes style Emmaüs, style recyclerie, style des artistes qui vont les récupérer et qui vont soit les recycler, soit en faire des œuvres d'art, soit les revendre après les avoir.
Donc, c'est quoi un objet culturel? C'était des livres? C'était...
Des livres, des disques, des... n'importe quoi.
Des instruments de musique?
Des instruments de musique, etc. Alors certains en bon état, mais d'autres qui sont cassés. Mais vous avez un plasticien qui, avec des morceaux d'instruments de musique divers, vous fera une sculpture. Et l'idée, c'était, ensuite, une fois que ces plasticiens font des choses, eh bien, on fait la tournée, on fait une exposition avec les objets recréés à partir de ça. Vous voyez, c'est pas des choses très compliquées. Voilà, c'est un exemple de recyclage et de voilà.
Parce que le maire peut amener auprès de ses habitants une approche différente, une culture différente, celle du futur et de l'écologie.
Voilà, c'est une volonté au départ. Et si on n'a pas la volonté, on n'ira pas. Alors après, ça peut être de l'affichage aussi simplement. Hein. Mais nous, on est plus sur de la pérennité que les choses. D'ailleurs, les projets qu'on récompense au Trophée Action, c'est la pérennité, ce sont déjà aboutis et qui sont pérennes. Voilà.
Il y a peut-être de la renaturation aussi ou de faire évoluer les cours d'eau vers réhabilitation.